7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, peut-on rire de tout à notre époque? Un an après Charlie, nous interrogeons des humoristes sur leur écriture, leurs limites, voire leur autocensure. Moins marquants ou violents que les dessins de presse, les textes des humoristes ou journalistes croqueurs d'actu sont plus que jamais sujets à controverse. Djihadisme, racisme, sexisme, handicap, autant de sujets pour une jeune génération coincée entre la loi, une partie de la société qui réclame du respect, beaucoup de respect et une injonction d'impertinence au risque de se voir accusé parfois de mièvrerie, tiédasse et formatée. Alors nous allons en discuter avec nos invités au parcours varié, multiculturel. Samia Rosseman, bonjour.
Bonjour.
Femme musulmane et humoriste, c'est l'étiquette que vous a donnée l'hebdomadaire culturel Télérama.
J'adore.
Bon, vous êtes d'accord, ça vaut mieux, qui ne tarit pas d'éloges sur vous. Vous êtes sur scène à Paris tous les mardis soirs, c'est ça?
C'est ça.
Au point virgule pour votre spectacle Femme de couleur. Vous avez également sillonné d'ailleurs une bonne partie de l'Afrique francophone. Vous connaissez à peu près tous les accents du continent maintenant.
Pas tous.
Ouais. Il vous manque
3
quoi?
Ou 4. Ah, il me manque tout le reste. J'en connais 3 ou 4, il me manque tout le reste.
Bon, Cameroun, Côte d'Ivoire, vous êtes allé au Sénégal.
Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et j'ai joué au Gabon, j'ai pas eu le temps de prendre l'accent. Et puis je me débrouille avec l'accent des Antilles, mais ça c'est pas l'Afrique subsaharienne.
Non.
Et Sénégal, Cameroun, Gabon et Côte d'Ivoire.
Ismaël Saïdi, vous êtes également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Humoriste belge, ancien flic, votre spectacle Djihad raconte l'aventure de 3 types pas très malins. Charline Vanhoenacker, journaliste, bonjour.
Bonjour.
Vous croquez l'actu juste avant 8h sur France Inter et vous êtes aussi productrice de l'émission quotidienne Si tu j'aimerais mieux que vous le disiez.
Si tu écoutes, j'annule tout.
Voilà, merci beaucoup. Vous êtes la découverte et la fraîcheur de la matinale la plus écoutée de France. Et également parmi nous, Jane Weston-Vauclair, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne d'origine anglaise et vous avez publié de Charlie Hebdo à hashtag Charlie. Vous connaissez bien les frontières de l'humour entre la France et le monde anglo-saxon d'où vous venez. Et bien sûr, quant à vous, les voisins, n'hésitez pas à participer au débat. Dites-nous où sont les limites du rire chez vous. Tous vos messages sur les réseaux sociaux. Je vous en lis quelques-uns de messages, vous êtes d'accord? Évidemment, vous pouvez commenter. Hein. Kone, qui est à Bamako, Mali, nous dit « On peut rire de tout, car mon pays est reconnu pour son cousinage à plaisanterie. Par contre, on laisse toujours la religion en dehors de tout cela. » Alou, également à Bamako, nous dit « Chez nous, on rit de tout, même lorsqu'un de nos potes se fait plaquer par une fille le 31 décembre.
» C'est grave, bon. C'est grave.
C'est même plus grave que les religions,
finalement, oui, c'est vrai.
Terrible de rire du malheur des autres. Masse, à Cotonou, je pense qu'on peut rire de tout, mais ça ne se fait pas au Bénin. Le sexe, par exemple, reste tabou, les conflits et les religions aussi, parce que la société ne veut pas évoluer. Rouventos, qui est à N'Djamena, au Tchad, nous ne pouvons pas nous priver de rire, malgré les circonstances douloureuses. La société dans laquelle nous vivons est pleine d'humour et en a besoin. Diakate, qui est à Dakar, nous dit que le rire et la bonne humeur sont des outils puissants pour faciliter l'entente cordiale mondiale. Il ne faut cependant pas déraper. La une de Charlie Hebdo est pour moi maladroite. Rions donc à gorge déployée, mais rions sainement en sacralisant le respect mutuel. La une de Charlie Hebdo, là, c'était le numéro spécial, bien sûr, qui montrait un dieu armé sous le titre « Un an après, l'assassin court toujours » et qui était signé Eris, le patron de Charlie Hebdo. Bakar à Conakry nous dit « C'est facile d'insulter une religion lorsqu'on n'y croit pas. Charlie Hebdo en a vu les conséquences. » Voilà, tous vos messages sur Facebook et sur Twitter. Peut-on rire de tout aujourd'hui, à notre époque ?
On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver ? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance!
Pierre Desproges, connu pour son cynisme, extrait d'un de ses sketchs, Les Juifs, en 1986. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre Desproges pourrait monter sur scène avec ce genre de sketch, selon vous, Charline Vanhoenacker?
Pourquoi pas, oui, on vient de le diffuser à la radio, je l'ai déjà entendu plusieurs fois comme exemple.
Parce qu'il fait partie d'un patrimoine national, mais donc patrimoine avec une certaine ancienneté, dirons-nous.
Oui, c'est vrai, oui, et puis il y a toute l'aura autour de lui qui fait que ça passe encore aujourd'hui quand on l'écoute. C'est vrai que c'est un autre contexte, c'est une autre époque. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans une salle de spectacle déborde forcément. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un pour filmer ou pour relayer les propos. Et ça prend tout de suite une dimension et hors salle et dans le monde entier. Donc la caisse de résonance est tellement plus grande que je pense que c'est ça peut-être l'écueil le plus difficile. Mais ce qui est formidable dans ce sketch, c'est qu'il domine. Il domine la cruauté, la page d'histoire.
On ne sait jamais jusqu'où il va aller finalement.
Non, mais en l'écoutant, on lui fait confiance. Il y a une sorte de confiance qui fait qu'on est à l'écoute et qu'on rigole.
Ismaël Saïdi.
Ben, on sait dès le départ qu'il est cynique. Il y a un pacte aussi, il y a un pacte social qui se fait avec le public. Donc à partir du moment où on va le voir, on sait qu'il pense exactement le contraire de ce qu'il est en train de dire et que l'idée c'est de condamner, je veux dire, parce que il est clair quand il dit que les Juifs ont eu une certaine antipathie à l'égard des Allemands, c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais c'est plus ou moins ça qu'il voulait dire. Dès le départ, on se dit bon là, il est en train de partir complètement en freestyle, donc on sait qu'il est en train de déconner.
Finalement, il y a aucun doute sur ses réelles opinions.
Non, il y en a pas. Et
il donne les clés d'ailleurs.
Voilà, il les donne dès le départ. Il prend même l'air avec lequel il le dit est un air un peu bobo, un peu con. Qui est en train de dire la presse et qui ralouille. Donc je pense que dès le départ, c'est clair. Et c'est ça qui est dangereux. Effectivement, aujourd'hui, il y a une caisse de résonance plus large. Donc à l'époque, les gens venaient voir, ils savaient qui ils venaient voir, et puis ils sortaient de là. Aujourd'hui, ça se retrouve sur des réseaux sociaux, et donc des gens qui ne sont pas nécessairement ceux qui auraient été le voir dans la salle. Mais en même temps, c'est clair. C'est clair ce qu'il fait. Ça devient dangereux quand c'est plus clair, en fait.
Enfin, à l'époque, on n'avait pas besoin de rire pour oublier des peurs collectives et pour oublier la morosité. C'est peut-être aussi toute la différence, non?
Un petit peu quand même.
Ah ben, il y avait le chômage, il y avait plein de trucs, il y avait le sida, il y a quand même pas mal de choses, hein, je veux dire.
Quand on regarde les textes de Coluche,
à cette époque, quoi, je veux dire.
C'était quand même des textes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui et qui reflètent de gros problèmes de la société. Ouais. Donc, je pense qu'il y a toujours eu matière à dédramatiser, justement. Après, le problème, c'est de parler en face d'une personne qui est capable de comprendre que c'est du second degré. Et c'est ce
qu'est-ce que vous vous sentez aussi libre tous les trois que Pierre Desproges à l'époque, qui ceci dit c'était des faits virés de plusieurs, notamment de l'Aurore, etc. Qu'il y avait des problèmes, hein, ceci dit.
Moi je me sens totalement libre. Après je m'impose moi-même des limites, c'est de ne jamais blesser. Et à partir du moment où on s'impose cette limite-là, donc forcément on risque pas de déraper.
Mais moi aussi je me sens tout à fait libre et pourtant
aussi libre que Pierre Desproges à l'époque.
Mais je sais pas si je vais aussi loin que lui. Je sais pas si j'ai cette fibre-là. Peut-être que ça viendra avec les années. Je pense pas, enfin le plus loin que je sois allée, c'est peut-être caricaturer Mahomet en radio, mais je pense pas avoir fait un sketch, non, je peux pas aller aussi loin, mais si je le sentais, et si je sentais que c'était nécessaire et que ça venait à point nommé dans l'actualité, etc., je pense que je m'y essaierais, et en tout cas, sur moi, malgré la pression d'avoir énormément d'être très écoutée, parce que je suis un carrefour d'écoute le matin, j'ai une liberté totale, ma direction regarde pas mon texte avant.
Et pour vous, Ismaël Saïdi?
Alors, je sais pas si je vais aussi loin, je vais même comparer à quelqu'un qui a une aura pareille, mais bon, voilà, je pense pas que ce soit plus compliqué qu'avant. Bon, effectivement, bah, en même temps, la société a changé, mais je pense qu'on est aussi le produit de cette société, donc on s'adapte effectivement aux réseaux sociaux, à plein de choses. Sur scène, moi j'ai un personnage de djihadiste qui s'est radicalisé, c'était un fan d'Elvis Presley, il s'est radicalisé parce qu'il découvre sur la tombe d'Elvis, qui s'appelle Elvis Aaron Presley, il croit qu'il est juif et comme il n'aime pas les juifs, il arrête. Donc c'est pas aussi loin que des proches, mais on va quand même dans une zone un peu spéciale. Mais je pense effectivement, je suis d'accord, je pense que la limite c'est d'être drôle, c'est que l'autre en face rit, et je pense que voilà, si on le blesse pas, c'est en tout cas si le but n'est pas de le blesser à outrance, bah, tant qu'il rit, c'est que ça marche, quoi.
Jane Weston Vauclair, pour vous justement, quel chemin a été parcouru entre Pierre Desproges et aujourd'hui?
Alors, je pense que ce qui a fait marcher des proches à l'époque, c'était ce mélange de tendresse et de méchanceté, qui, cette alchimie-là qui marche. Et je crois que je suis vraiment d'accord avec l'idée de l'importance, c'est de faire rire. C'est, en fait, quand on est en bon rapport avec son public, on peut se permettre de dire des choses qui poussent justement les tabous. Si on n'affronte pas un petit peu les tabous, c'est qu'on n'est pas vraiment humoriste.
Il y a une forme de confiance du public.
Il y a une confiance, absolument. Il y a une confiance réciproque qui s'installe. Et je crois que les humoristes, aujourd'hui, c'est exactement le même rapport. Aujourd'hui.
Alors, Charline Van Hennecker, avant vous, aux commandes de la chronique humour de la matinale la plus écoutée de France, d'autres se sont fait virer pour moins que cela. On écoute.
Dis Mahomet, pourquoi tu ne montres jamais ton visage ?
Ah, ça, c'est une idée de mon conseiller en communication. Bon, je te cache pas que moi, je rate pas mal de plans avec des meufs, du coup.
Bah, si toi, Mahomet, tu galères avec les filles, moi, je suis carrément vierge.
Ah bon ? Ouais.
Enfin, j'ai quand même un fils.
Quoi ?
Et il est juif.
Ah !
Oui, je sais, c'est compliqué.
Ah bah ouais.
Tiens,
ouais.
Regarde, j'ai sa photo sur mon iPhone.
Ah, mais il ressemble pas mal à son père, je trouve. Ouais. Bon, en tout cas, si t'es vierge, viens pas dans mon paradis parce que tu vas avoir chaud au cul, hein, je te le dis.
Ah ouais, tiens, au fait, pourquoi 70 vierges pour les kamikazes ?
Bah, parce que les types, ils arrivent en 70. 70 morceaux, ma vieille, réfléchis.
Ah, c'est terrible. Ah, oui. Mais sinon, Mahomet, ça va toi depuis un an ?
Non, je vais pas te le cacher, j'ai passé une année de merde, je suis sous antidépresseur, je crois plus en rien.
Oh là là.
Quand je vois ce qu'on fait en mon nom, j'ai envie d'en changer. Je suis même prêt à m'appeler Kevin s'il faut.
C'est dur, oui.
Le seul truc positif, c'est que je suis détesté par les électeurs du FN.
Ah, oh, la chance ! Moi, c'est une tannée, ils m'adorent.
Ah, mais c'est dur, ça aussi, ouais. Bon, dis, Marie, tu crois qu'on pourrait se voir un de ces soirs ?
C'est-à-dire que moi, je ne couche pas, toi, tu ne bois pas d'alcool,
ouais,
et
ça,
puis je suis mariée à Joseph, le charpentier.
Ah, il est charpentier, ouais.
T'as qu'à lire mon livret de famille. Tu vois, c'est facile à trouver, la Bible, c'est un best-seller.
Ah bah attends, mais moi aussi, le Coran, c'est un best-seller. Mais attends, si on s'associe pour faire un livre, là, on nique Zemmour et Trier-Veller, là.
Oh, oui, et pour ne pas laisser de doute, cette fois, on l'appelle « Aimez-vous les uns les autres, bordel !»
Mais ouais, aimez-vous, bordel de Dieu.
Ça suscite quel genre de commentaires, Charline Van Hennecker ? Ça, c'était en direct il y a quelques jours,
oui.
Sur France Inter, à 7h58.
Ça suscite beaucoup de commentaires plutôt positifs, genre « ça fait du bien ». C'est-à-dire que ce jour-là, c'était le jour où Charlie publiait son numéro double et l'auditeur d'Inter avait besoin qu'on appuie là où ça fait mal. Et moi, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire ce jour-là, je me suis dit quel plus bel hommage à rendre à Charlie Hebdo que de montrer qu'on ose caricaturer nous aussi Mahomet. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de crayon, on peut caricaturer Mahomet à la radio, voire à la télévision. Et,
Vous êtes filmé, hein,
ouais.
Ceci dit, mais votre partenaire a on voit pas son visage, hein, il y a une espèce de couverture noire
on
sur
aurait,
la tête.
Alors on aurait pu imaginer de lui mettre un masque de Mickey, et là on était dans une provocation un peu plus. Mais là, j'avais imaginé le début du sketch où on voyait pas son visage parce qu'il voulait pas qu'on retrouve sa tronche sur des mugs comme la Sainte Vierge à Lourdes, où la Sainte Vierge dit ouais, moi je me retrouve entre les nibards de Christine Boutin, qui est une politique française très très catho. Et donc l'idée de départ du sketch, c'est que Mahomet, il voulait pas qu'on voit son visage parce qu'il a pas envie de se retrouver sur des t-shirts, des mugs ou des briquets. Mais on aurait très bien pu imaginer une représentation, avec un masque de Mickey et mélanger le capitalisme à la Walt Disney avec Mahomet. Hein, mais c'était un autre sketch alors.
Ouais. Samia Rosseman, vous, comment vous réagissez par rapport à ça ?
Moi, c'est pas le type d'humour qui me fait rire. Je vais être sincère avec vous parce que je suis croyante, je suis religieuse et chez nous, on ne caricature pas le prophète qui est considéré comme la personne qu'on aime le plus au monde, plus encore même que nos propres parents. Ensuite, j'estime que chacun devrait être libre de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Je trouve ça aberrant que des gens sortent dans la rue, brûler des drapeaux, péter les plombs parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire des caricatures. On ne croit pas en la même chose. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire, de la même manière que moi j'ai le droit de croire, toi tu as le droit de pas croire, tu as le droit de blasphémer si tu en as envie, c'est ton libre arbitre. Et si Dieu avait voulu, il nous aurait tous créés de la même façon. Or, il nous a fait différents, justement, pour qu'on s'entreconnaisse et qu'on échange. Et donc, j'estime que t'as le droit de faire ce que tu veux. Si toi, tu t'amuses, que ça amuse du monde...
C'est pas non plus un humour très agressif ou très grinçant,
non,
hein,
pas
ceci
du tout.
Dit.
Pas du tout, ça peut prêter à sourire.
Ouais.
Mais simplement, moi, c'est juste le fait de caricaturer le prophète. De toute façon, le problème ne se pose pas là parce qu'elle l'a appelé Mahomet. Ouais. Et moi, mon prophète, il s'appelle Mohamed. Mohamed, ça veut dire le digne de louange. Mahomet veut dire le contraire.
Ouais.
Donc Mahomet, tu peux parler de lui quand tu veux.
Mais en même temps, il y a des
très bien, on va y aller alors.
Non, freine quand même un peu, il faut quand même que tu tiennes jusqu'à la fin de l'année.
Voilà. Donc il n'y a pas de souci, parle autant que tu veux, je sais pas qui
alors,
c'est
si
Mahomet.
Si je peux me permettre rapidement. Alors. Je comprends ton point de vue et je le respecte énormément. Moi, je suis croyant et pratiquant aussi. Moi, ça me fait rire, en fait. Moi, ça me fait rire. Mais ça me fait, alors, ce qui est facile, moi, ça me fait rire. Pourtant, on croit au même texte. Autant que le sketch des inconnus sur Jésus de leur tour. je sais pas si vous souvenez ces sketchs à l'époque, qui devait aussi blesser finalement des gens qui sont catholiques, croyants, de voir Jésus donner des pains à gauche et à droite. C'est mon genre d'humour, parce que je me dis finalement, la question elle est là alors. La question, alors, je comprends que ça fasse pas rire, et donc ça, j'ai aucun problème avec ça, au contraire même. Mais la question est là. La vraie question, c'est on a déjà commencé depuis longtemps à rire de tout. C'est pas nouveau. Je veux dire, ce sketch.
Heureusement.
Heureusement. Mais ce sketch des inconnus, moi, il me tuait de rire quand j'avais 14-15 ans.
Et alors, là où c'est compliqué, c'est que, bon, là, on voit bien que vous faites pas rire tout le monde, hein. Charline, on est bien d'accord.
Mais c'est
pas
le but.
Voilà. C'est ça, c'est un parti pris.
Ah oui, c'est un parti pris. Et moi,
vous choisissez de ne pas plaire à tout le monde.
Depuis les attentats de Charlie Hebdo, il y a quelque chose qui a changé. C'est que, déjà, j'avais pas forcément l'ambition de plaire à tout le monde. Moi, j'avais l'ambition de titiller, de susciter le débat, d'énerver parfois. Et là, depuis Charlie Hebdo, encore plus, l'idée, c'est que oui, c'est pas de plaire à tout le monde. De toute façon, l'humour, c'est quelque chose qui peut diviser. C'est très subjectif.
Ouais. Exactement.
Mais quand je caricature Mahomet, je sais pas si ça s'entend dans le sketch, mais je l'ai fait deux fois, et deux fois, je l'ai fait avec, en fait, énormément de tendresse. Mm-hmm. Parce que je comprends que c'est un pilier ancré, quand on est croyant, une espèce de pilier, alors je le suis pas moi, hein, mais et c'est difficile de le chatouiller ou de l'ébranler, parce que ça ébranle toute la personne. Et quand j'écris sur Mahomet, quand le gars dit « Fais gaffe à la Vierge Marie, viens pas dans mon paradis parce que tu vas avoir chaud au cul », je trouve que c'est un chic type. Et la première fois que j'ai caricaturé Mahomet, on a écrit un sketch à trois, et la chute, c'était « Mais Mahomet, vous êtes où ?» Et il dit « Bah, je suis dans les locaux de Charlie Hebdo, j'essaye de retrouver le dessin de Cabu parce que je me trouvais vachement beau gosse dessus. » Et pour moi, Mahomet, c'est le mec qui est tellement triste de ce qui arrive, qui se dit mais il y a des mecs qui ont lu le Coran à l'envers, quoi, c'est pas possible, qui m'a traduit le Coran en Occident, qui m'a voilà. Mmh. Et donc j'ai ça s'entend peut-être pas, mais quand j'écris, il y a beaucoup de tendresse qui fait qu'il y a une espèce de filtre qui fait que je ne tombe pas dans une provocation gratuite ou méchante.
Mais il y en a qui le sentent, c'est important, je voudrais juste dire ça, moi je le ressens déjà, parce qu'il y en a quand même qui le ressentent, comme pour la
non, on la ressent cette tendresse,
bah ouais, comme là, pour la une, comme pour la une de Charlie Hebdo qui a eu juste après l'attentat, où il y avait cette image qui disait tout est pardonné, on sentait quand même de la tendresse là-dedans. Et je pense que ce qui est important aussi, parce qu'aujourd'hui on souligne beaucoup de je suis pas là pour faire rire tout le monde, et donc je comprends qu'il y a des gens qui ça ne plaît pas, mais alors du coup alors on a l'impression que le monde est scindé en deux. Je fais rire ceux qui sont pas croyants, et les croyants d'office vont pas rire de ça, ce qui est pas tout à fait vrai non plus. Il y a
la
des
preuve,
gens aujourd'hui. Qui y croient et qui en rient aussi.
Ça veut voilà. rien dire, les subtilités sont...
Voilà, exactement.
Vois, chacun voit midi à sa
voilà,
porte, chacun
exactement.
A tel ou tel type d'humour,
exactement.
Le fait d'être croyant ou pas, ça change rien.
Voilà, exactement, donc ouais. On ne scinde pas le monde en
moi,
deux.
Ouais, moi,
en
tu fait. Vois, dans les caricatures du prophète, que la paix soit sur lui, la seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'elle n'était pas drôle. Mm-hmm. Mais il y en a une seule qui m'a fait sourire sur toutes, mm-hmm. c'est celle où il a les mains sur le visage et que c'est marqué « Mais qu'est-ce que c'est dur d'être aimé
voilà,
par des cons ». Moi, celle-là, elle m'a fait sourire, j'ai trouvé ça drôle.
Celle-là, elle a été très universelle. Alors, ceci dit, Charline Van Hennecker, vous avez aussi des ennemis, mais pas forcément là ceux qu'on pourrait imaginer, plutôt le genre sexagénaire, savant, brillant, dépressif et qui n'aime pas les filles qui déconnent comme vous. Je cite le philosophe Jean-Claude Guibaud qui vous a un peu vitriolé quand même dans le Nouvel Obs en parlant de votre émission quotidienne. On voit bien ce que dissimule un tel jaillissement de sucre, la rigolade ainsi entendue congédie insidieusement le savoir, la réflexion, la contestation, la dissidence, l'info dérangeante, espièglerie Sainte-Nitouche, niaiserie formatée. Voilà, vous êtes là à peu près rhabillée pour l'hiver. Hein,
c'est beau, c'est beau.
Ouais. C'est oui, c'est alors.
Elle vous a pas loupé là. Hein.
Oui, m'a pas loupé, mais ça, je serais presque inquiète si je n'avais que des critiques positives. Si j'énerve des gens, tant mieux. Mais je pense que Guibaud est assez croyant.
Vous entendez tous les trois hein, ce genre de critiques aussi de l'ancienne génération qui dit oh, quand même ces gosses, ils vont pas loin, ils ont pas beaucoup de couilles quoi, sous-entendu.
Bah, qu'ils les mettent sur la table, c'est cool.
Ouais.
Allons-y, ils écrivent un truc.
Alors moi, je vais pas les voir. S'ils les mettent sur la table, je vais pas les voir, donc je sors.
Moi, je trouve ça flatteur en fait. Toutes les critiques négatives qu'on peut recevoir, c'est hyper flatteur parce que ça veut dire qu'en quelque sorte on dérange. Mmh. Donc à partir du moment où quelqu'un prend le temps d'aller poster un message ou d'écrire un article pour vous descendre, là vous êtes quelqu'un d'important. Mmh. C'est magique.
En fait ça fait plaisir.
Non, mais pour vrai, vous descendre en tant que jeune temps, génération hein. trop pâle finalement. Hein. C'est ça.
Une génération trop pâle, je sais pas moi la palitude, je viens d'inventer un mot. C'est quand je vois qu'il y a pas d'énervement, c'est quand je vois que hier matin à Paris, il y avait quasiment pas de gens
Place
de la République pour l'hommage à Charlie, qu'il y avait très peu de gens, mais vous étiez où j'ai dit ce matin, vous étiez où? Mais enfin, vous étiez à la messe ou quoi là?
Oui, vous étiez Marianne tout à l'heure. Oui. Vous restez avec nous, peut-on rire de tout un an après Charlie avec nous d'ailleurs Charline Van Hennecker et deux humoristes et une spécialiste de la presse et de l'humour.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Peut-on rire de tout à notre époque? On en discute avec vous, Samia Rosseman, Ismaël Saïdi, vous êtes humoriste, Charline Vanhoenacker, vous êtes journaliste et comment vous vous définissez finalement aujourd'hui? Vous êtes embauchée
Humoriste, d'accord.
Et Jane Weston Vauclair, vous êtes spécialiste de la presse humoristique, vous avez publié de Charlie Hebdo à hashtag Charlie et bien sûr vous connaissez bien aussi les limites de l'humour dans les pays anglo-saxons. Et bien sûr, nous discutons de la façon dont vous travaillez tous les trois et des limites que vous vous imposez au jour le jour pour écrire vos sketchs et vos billets d'humeur.
Alors, il est vrai que le terroriste Aboubacar al-Baghdadi recrute énormément grâce à Internet. C'est même devenu son premier moyen de recruter des candidats au djihad.
Tu veux chercher où se trouve l'État islamique? Il y a une application pour ça. Tu veux nous rejoindre pour tuer des infidèles? Il y a un réseau social pour ça. Tu veux poster ta vidéo où tu décapites une femme non voilée? Et un site de partage de vidéos pour ça. Tu veux regrouper toutes ces applications? Tu as un smartphone pour ça.
Google, YouTube, Facebook, Twitter, Apple, partenaires du djihad depuis 2006.
Voilà, ça ce sont les guignols de l'info. Est-ce que finalement, depuis les attaques du 13 novembre, l'ennemi commun à presque tous n'a pas, d'une certaine manière, ne vous a pas simplifié le questionnement sur les limites? Ismaël Saïdi.
Oui, je voudrais juste, avant de répondre à ça, sauter sur un dernier truc avant la pause que vous avez dit sur l'ancienne génération qui dit qu'effectivement c'est une génération un peu pâle. Je pense qu'aujourd'hui, quand Charline fait une chronique et qu'elle est podcastée partout sur Terre, quand Samia poste une vidéo que la Terre entière voit, la prise de risque est quand même un peu plus grosse que quand vous êtes devant une salle de 200 personnes qui ont payé un ticket.
Dans les années 80.
Exactement. Donc je pense que c'est pas juste de dire ça aujourd'hui. Le pire qui pouvait arriver à un humoriste à l'époque, c'est de passer sur France Télé et d'avoir, je veux dire, un audimat. Mais
c'est-à-dire que là, vous êtes forcément sûr de tomber sur des gens qui ne vous apprécient pas du tout.
Bah, c'est ce qui s'est passé avec Charlie. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, c'est que leur une s'est retrouvée quelque part au Pakistan ou dans le bout du monde. Donc il y a quand même une plus grosse prise de risque. Est-ce qu'on nous a simplifié ou pas la tâche? Je pense que l'humour, ça reste une soupape et qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui va et qu'il faut juste sortir quelque chose. Ça blesse, ça blesse pas, etc. Mais il faut que ça sorte.
Aujourd'hui, vous, c'est le cas de votre spectacle, Ismaël Saïdi, cibler les dingues de Daesh au lieu de la religion, ce que beaucoup d'humoristes font aujourd'hui. En même temps, c'est plus tranquille, c'est plus simple quelque part, non?
Ce ne l'est plus ou c'est plus, vous voulez dire?
Non, je veux dire aujourd'hui c'est plus facile, c'est moins risqué, c'est moins ça prête moins à critique que de cibler la religion en tant que telle. Cibler Daesh, c'est pas cibler la religion, on est bien d'accord.
Ouais, hein ouais, bah d'abord je pas écrit ce truc là en essayant d'être de cibler ou d'être plus de faire un boulot dangereux, mais le spectacle cible pas Daesh, il cible les pressions des communautés musulmanes sur elle. En fait, c'est juste l'histoire de trois mecs en rupture identitaire. Donc on cible un exemple, un des personnages se radicalise parce qu'il sortait avec une fille qui s'appelle Valérie pendant 10 ans, et quand il veut l'épouser, sa mère lui dit: Valérie, c'est juste pour jouer, pour la vraie vie il faut une musulmane. C'est pas Daesh que je cible là, en fait, du tout.
En fait, votre spectacle, donc, c'est l'histoire de trois djihadistes qui sont un peu des bras cassés, qui décident de partir combattre en Syrie. On écoute un extrait de Djihad.
Bon les gars, on dort ici. On vient nous chercher pour notre destination finale.
Quoi? Comment ça, destination finale? Quoi? Comme dans le film? Ça veut dire quoi? Qu'on fasse, on va mourir ici?
Non, mais c'est la guerre, hein?
Mais enfin, c'est pas la guerre ici, c'est la guerre là-bas.
Non, mais je te signale que c'est le djihad. Et dormir, c'est vraiment le moindre de mes soucis.
Ah, et quand tu seras en face, en train de te battre avec l'ennemi, hein, et en train de dormir sur la Kalachnikov, tu feras quoi?
C'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là.
C'est ce que je disais, organisation zéro.
Ismaël Saïdi, vous êtes belge d'origine marocaine, vous avez été policier pendant plusieurs années. Comment vous vous êtes retrouvé sur scène avec votre spectacle Djihad?
Sans armes. j'ai été policier longtemps, j'ai été policier 15 ans, mais bon, j'ai écrit pour la télé, pour le cinéma, pour le théâtre. Puis à un moment donné, le fait d'écrire et d'arriver en vie fait que vous devez faire un choix, et j'ai fait le choix d'arrêter d'être policier pour faire autre chose. Djihad, c'était une réponse à Marine Le Pen. Ce que j'ai dit, c'est Marine Le Pen, c'est ma muse en fait. Et un soir, j'étais en pleine prépa d'un long métrage, et je l'ai vue sur une chaîne française. On lui demandait ce qu'elle pensait des jeunes qui partent. Elle avait répondu que ça lui posait pas de problème tant qui reviennent pas. Et je trouvais que c'était hard comme réaction, et que le vrai questionnement que moi je me pose, qui est grandi dans ce genre de quartier, qui connaît cet univers, c'est pourquoi ils partent et qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'ils partent finalement. Et donc voilà, c'est venu comme ça. C'est un spectacle qui a été écrit un peu en coup de sang, sans trop se poser de questions.
À quel moment par rapport aux attentats de Charlie?
Ah, avant, moi, je l'ai écrit en août 2014, on l'a joué le 26 décembre 2014. On devait jouer pour 5 soirs. Ouais. Et personne n'en voulait. Interdiction d'affiches au métro. Bon, Djihad, j'ai pas choisi le meilleur titre. Et donc, on a joué à guichet fermé 5 soirs, puis on devait arrêter la tournée, puis on a joué, on nous a acheté une date le 9 janvier, c'était le jour de l'attaque de l'épicerie cachère, 2 jours après Charlie Hebdo. Et là, voilà, ça n'a plus arrêté.
C'est triste à dire en même temps.
Ouais. Hein. Ouais, surtout que mon personnage est un dessinateur et que je parle du fait que les dessinateurs iront en enfer, enfin des choses
c'est
comme ça.
C'est toi qui a fait le coup à vous.
Ouais. Sur une autre radio, je dirais ça.
Vous avez vous-même connu des jeunes qui étaient au lycée avec vous, qui partageaient le même humour et qui un jour ne l'ont plus partagé du tout.
Ouais. Tout à fait, ouais, ce qui me travaille aujourd'hui, au-delà de l'humour et tout, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi le mec qui était avec moi en classe, qui allait danser aux mêmes endroits, qui allait à la patinoire avec moi, qui regardait le sketch des inconnus en même temps que moi, pourquoi je l'ai retrouvé sur une photo.
Et qui rigolait.
Exactement, qui rigolait. Pourquoi je l'ai retrouvé un jour avec une photo, sur une photo avec une Kalachnikov quelque part, du côté de la Draca, par exemple.
Samia Rosseman, alors vous êtes française d'origine tunisienne, vous avez étudié au Conservatoire de Paris, vous êtes sur scène avec un voile, avec un col roulé, sous une robe décolletée africaine. Vous racontez que vous avez failli ne jamais monter sur scène. Pourquoi ?
Parce que le jour où j'ai arrêté le conservatoire, j'ai décidé de porter le foulard. Et je me suis dit, mais qui maintenant va me proposer un rôle avec un voile sur la tête? C'est fini. Oui. Et donc,
enfin, en l'occurrence, c'est un turban, hein. Là, aujourd'hui, vous avez un magnifique turban jaune.
J'ai trouvé, en fait, une façon que ça passe. Ouais. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé
vous
une alternative.
Vous avez réfléchi, d'ailleurs, à ça?
Ben, en fait, j'ai toujours été attirée par l'Afrique subsaharienne. Et donc, je suis généralement tout le temps habillée en boubou et le turban va avec. Donc, et puis, j'aime ce style et je me sens bien comme ça avec ces couleurs. Après, chacun porte comme il a envie. Moi, j'avais envie de le porter comme ça. Et ça a été un bon compromis pour la scène. Parce que faire venir du monde, voir une femme voilée sur scène, à mon avis, on n'est pas encore prêt en France. Et donc, les gens viennent quand ils voient l'affiche avec ce boubou africain. Puis une demi-heure après avoir ri, depuis le début du spectacle, je finis par leur annoncer que c'est un voile de femme musulmane. Et là, c'est trop tard parce qu'ils m'aiment bien. Ils sont passés au-delà de l'apparence.
Ils ont déjà payé.
Et donc, voilà, vous vouliez passer quelque chose, je vous laisse.
Pardon. On y va.
Bonjour. C'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits. D'accord ? Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles. Hein, on est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Voilà. Donc merci de choisir une autre religion. Voilà. Au revoir.
Voilà, ça c'est une vidéo qui a été vue pas mal de fois, hein, je
plus
crois.
De 5 millions si on compte tous les réseaux sociaux sur lesquels elle a été diffusée. En fait, elle a été faite après les attentats à Ottawa. Au début, on nous annonce qu'un type est entré dans le Parlement, qu'il a tiré sur des gens. Au prime abord, on nous dit que c'est un Canadien. Là, tous les musulmans du monde se disent « Hamdoullah, c'est pas nous ouais. ». Et puis 5 minutes après, les nouvelles infos annoncent qu'en fait, il était fraîchement converti à l'islam. Et là, j'ai dit « Pourquoi ?» Et du coup, j'ai fait cette vidéo un peu en colère pour dire ce que je ressentais. Et elle a eu d'abord beaucoup de succès au Canada. Et après les attentats de Charlie Hebdo, quand il y a eu ce qui s'est passé, moi j'aurais été incapable de faire rire à ce moment-là, j'avais la boule au ventre, j'étais en Tunisie, donc déjà c'est pas moi, d'accord, on est d'accord. J'avais appelé mon mari en lui disant, écoute, vu ce qui s'est passé, la communauté musulmane de France va s'en prendre plein la figure avec des amalgames, il est hors de question que je rentre, tu veux me voir, tu me rejoins en Tunisie. Il m'a dit, Samia, tu ranges ta chambre et on en discute. J'étais obligée de rentrer pour ranger ma chambre, on en a discuté, et puis j'ai repartagé cette vidéo parce que j'étais pas capable de faire autre chose à ce moment-là. Et elle a eu beaucoup de succès ici, après les attentats de Charlie Hebdo, elle a été beaucoup partagée. Et là, tous les médias se sont intéressés à mon discours. J'ai été invitée sur tous les plateaux télé, toutes les radios. Et ça m'a fait bizarre, parce que ça faisait des années que je prêchais le vivre ensemble, un peu comme ce que disait Ismaël tout à l'heure. Et personne ne s'intéressait à ça. Il y avait que les médias communautaires qui s'intéressaient à ce que j'avais à dire. Et là, d'un coup, j'ai vu Télérama débarquer dans ma salle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont écrit un article tellement beau qu'on aurait cru que je les avais payés. Moi-même, j'étais choquée. J'ai été invitée sur France Inter. On a fait une émission d'une heure. Ça s'est super bien passé. Du coup, le public de Télérama et de France Inter a débarqué dans ma salle au point virgule.
Ah là là, ma pauvre.
Vous êtes pas encore
ça, c'est le seul point négatif, finalement.
Non, j'adore le public, la cinquantaine, soixantaine.
Vous faire inviter chez Charlie Valéa.
La cinquantaine, soixantaine qui rigole en mode vibreur dans mes salles, moi j'adore. Et ça, ça s'est mélangé au public qui me suit depuis toujours, donc ceux des quartiers, les mamans arabes, les mamans africaines, et puis les homosexuels, parce que je joue dans le quartier gay. Et dans ma salle, maintenant, il y a enfin cette France que j'ai toujours voulu voir, une France multiculturelle, une France métissée, et qui rit ensemble des mêmes choses. Et c'est un peu magique, et en même temps, je suis tellement triste que ce soit arrivé dans ces conditions-là. J'aurais vraiment préféré qu'on m'écoute dans d'autres conditions et qu'on vienne me chercher à un autre moment. Et on m'a donné la parole, on avait besoin de rire, de dramatiser. Je ne pouvais pas me permettre de la refuser.
Ouais. C'est ça, on sent à tous les deux dans votre parcours une forme de tristesse et pas d'amertume, d'ailleurs. Hein, au fait que vous soyez sur le devant de la scène, finalement, malgré vous, grâce à cette terrible actualité.
Ben, je me dis, quand on est face à des gosses pendant toute une tournée et qu'on leur parle, je me dis, ben, au moins, il y aura eu ça après. Au moins, ça aura servi à quelque chose, finalement, de se battre. Au moins, il y a des gens qui ne seront pas morts pour rien, parce qu'on peut en parler. Parce que, voilà, c'est vrai que pendant des années, on s'est dit, mais enfin, pourquoi ils font ça, Charlie? Il y en a quand même qui les ont un peu abandonnés, à un moment donné. Donc, il y a eu pas mal de choses. Et ici, tu dis, ben voilà, ok, c'est bon, il y a plusieurs choses graves qui sont arrivées en France et partout sur Terre. Ça a mis, par exemple, de la lumière sur toi, Samia. Et tu dis, ben voilà, au moins, maintenant, peut-être qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout des choses, rire ensemble, faire des choses ensemble, moins taper sur quelqu'un comme Charline qui va dire ben voilà, moi j'ai envie de rire en parlant du prophète et de Marie par exemple, de se dire ok c'est bon, avant on aurait dit non écoute tu déconnes, on aurait porté plainte, maintenant on a compris, laissons les gens rire, ceux qui ont envie d'en rire comme t'as dit ben ils en rient, ceux qui ont pas envie d'en rire n'en rient pas, mais si au moins ça aura servi. Toute cette douleur aura, enfin pas service, pas le bon terme, toute cette douleur aura pu mettre au monde cette nouvelle vision des choses qui se dit allons-y, faisons des choses ensemble, ben tant mieux.
Mais
finalement,
vous ne vous sentez jamais tous les deux, donc un Belge d'origine marocaine, une Française d'origine tunisienne, vous ne vous sentez jamais utilisé pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez finalement.
Et une Française d'origine belge, faut pas l'oublier.
Belge d'origine belge.
voilà.
Dans la vie, on est constamment utilisé. Après, soit on choisit de le faire bien, soit on choisit de ne pas le faire. Moi, j'estime que j'ai un message à délivrer. Ensuite, si on vient me chercher pour écouter ce que j'ai à dire depuis toujours et pas que j'ai adapté en fonction de la situation, eh ben tant mieux. Après, moi, à l'époque, mon agent me disait souvent, mais Samia, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, il faut que tu pèses tes mots, il faut que tu réfléchisses davantage, il faut pas que tu dises tout. Comme ça, t'es brute de décoffrage, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. J'ai dit, écoute-moi bien, je bois pas de vin, il y a quoi? J'ai dit, voilà, si on doit venir me chercher, on viendra me chercher comme je suis. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On vient me chercher pour ce que je suis et ce que j'ai toujours défendu. Donc, je peux pas me permettre de refuser. Même si les autres pensent m'utiliser, même si c'est une façon de servir, bah, aujourd'hui, il y a un sujet d'actualité. Mmh. Ce que je raconte depuis toujours concorde. C'est un peu normal qu'on vienne m'interroger à ce moment-là.
Donc aujourd'hui, les Français dans une salle sont prêts à voir une femme humoriste musulmane voilée, hein, comme vous venez de le dire.
Je ne l'ai très pas.
Hein,
vous et sont ma chérie, prêts... c'est du travail. Tu crois que c'est facile? Il faut mettre le temps doucement d'installer ça. Le gars, quand il arrive dans la salle, il ne sait pas. Il me voit bien africaine et dit celle-là, la fille, elle est d'Afrique subsaharienne, elle nous raconte sa vie. Au bout d'une demi-heure, c'est trop tard. Tu ne vas pas t'échapper parce que j'ai annoncé que c'est un foulard, non?
Charline Van den Ecker.
Je suis d'accord avec ma sœur. Voilà, c'est bon ce que tu viens de dire. Non, elle dit oui, il faut. Vous êtes un peu des porte-parole et vous arrivez à point nommé et que vous soyez utilisé ou pas, mais allez-y parce que l'humour permet vraiment de faire passer le message au plus grand nombre et d'une manière qui est la plus belle qui soit et la plus pédagogique. Mmh. Même des gamins peuvent comprendre parce que c'est expliquer les choses mais de manière détendue.
C'est ça, c'est donner des codes.
Et en suscitant la réflexion, en prenant un pas de côté, l'humour, c'est la dérision, c'est regarder les choses avec un peu de recul. Et c'est très très important. Donc ces paroles-là avec l'humour sont à mon avis vraiment très très importantes. C'est aussi ce qu'on appelle l'humour de catharsis, c'est d'appuyer là où ça fait mal et parler de Daesh etc. et des djihadistes, c'est faire sauter le couvercle de la casserole et faire du bien aussi.
Compatible avec votre sketch de Mom sur Mahomet finalement.
Ah ben hein? Complètement, moi je me sens tout à fait en phase avec vous hein, ouais.
Jane Weston Vauclair, alors vous qui venez de Grande-Bretagne, est-ce que tout ce que vous entendez là, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé depuis un an, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, on se souvient de chaînes américaines, britanniques, qui étaient bien plus prudentes hein, que ne continuait de l'être la France hein.
Oui, oui, absolument. Dans notre livre, on parle en fait de ce décalage entre deux éthiques d'expression, selon la théorisation de Max Weber. Il y a l'éthique de conviction qu'on a beaucoup plus en France, où en fait on sent libre à s'exprimer, en fait sans entrave, mais sincèrement, et dans une démocratie, on a le droit de le faire. Mais l'éthique de responsabilité prime beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Et cette éthique-là, ça veut dire qu'en fait, il faut peser ses mots, il faut penser aux conséquences probables de ce qu'on va dire. Et justement, si on pense à l'affaire des caricatures en 2006, il y a la BBC qui s'est dit, nous, on ne va pas montrer les caricatures, par exemple, de Cabu ni du Freelance Posten, justement parce que ça risque de heurter la sensibilité des croyants. Et ça, c'est vraiment l'éthique de base des pays anglo-saxons.
C'est trop mignon. Mmh. C'est trop mignon. Si le monde entier est rempli d'amour comme ça, ce serait trop mignon.
Et par exemple, on peut penser à Sky News, qui est un peu l'LCI anglo-saxon britannique, qui en fait a coupé Caroline Forest, par exemple, parce qu'elle a essayé de montrer la couverture de Charlie Hebdo, le numéro des survivants.
Des survivants, ouais.
C'est une bonne chose de l'avoir coupée. Elle est un peu insupportable.
Mais l'éthique de responsabilité, est-ce que ça n'empêche, est-ce que ça freine pas le débat à un moment? Est-ce que ça, parce que pour soulever les tabous, oui, oui. L'éthique de conviction à la plus à la française, oui, oui. Ça c'est, permet
c'est,
de percer.
C'est très compliqué
aussi.
Pour l'humour, absolument. Mm. Parce que, en fait, l'éthique de responsabilité, on va reculer devant les tabous. C'est très conservateur. Parce que, justement, on veut pas froisser. Donc oui, c'est absolument, c'est en fait, les tabous sont beaucoup bien érigés, en fait. Ouais. Donc, en Angleterre, on retrouve aussi des universités où des humoristes sont invités à participer et en fait, qui sont exclus parce qu'ils ont fait des blagues, par exemple, sexistes ou j'en sais rien.
C'est-à-dire sont invités à la dernière minute, on annule leur venue, par exemple,
absolument.
Parce qu'il y a des associations féministes de l'université qui disent « Ah non, pas lui, on veut pas le voir », etc. Oui. C'est ça.
Ou même en France, en fait, c'est, il y avait censé avoir une intervention universitaire dont j'allais faire partie sur Charlie Hebdo à l'université de Londres à Paris qu'on a annulé parce que on avait peur que ça allait froisser ceux qui étaient censés apprendre l'anglais au sein du British Council.
Ah ben l'Angleterre.
On se retrouve si je peux me permettre avec parce que l'humour change. Alors c'est très rassembleur, mais l'humour change d'un pays à l'autre.
Oui.
Et donc on se retrouve avec un humour.
Au service des communautés?
Ben non, c'est pas ça que je veux dire. On se retrouve avec une espèce d'humour médian. Voilà, ça c'est le bon humour qu'on donne. Moi j'aime pas l'éthique de la responsabilité. Je vais prendre un bel exemple, c'est Cabu. Cabu, c'est le mec qui d'un côté effectivement a dessiné la caricature et le prophète ou a repris une caricature ou l'a dessiné. Donc ça c'est un côté du spectre de Cabu. Et de l'autre côté, c'est le mec qui a dessiné le nez de Dorothée. En fait, donc ça c'est le spectre de Cabu finalement. Donc il y en a qui vont se retrouver dans Cabu quand il dessine Dorothée, il y en a qui vont se retrouver dans Cabu quand il caricature le prophète. Qui a le droit de décider à un moment donné de dire on arrête le curseur là en fait. Tant que tu dessines Dorothée ça va. Il a peut-être blessé des gens. Et il a sûrement blessé des gens en caricaturant.
Et il a blasphémé Dorothée.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est plus grave. C'est encore plus grave. C'est quand même Dorothée. On parle de Dorothée. Mais je veux dire, à un moment donné, la décision, je crois que c'est le public qui la prend. En tout cas, pour la scène, c'est encore plus flagrant. Ou même les auditeurs. Si tu fais 14 chroniques l'une après l'autre qui font rire personne et qui dérangent tout le temps, le filtre va se faire automatiquement pour dire, elle est tout sauf drôle. Mmh. Le filtre, il est là. Mmh. J'ai pas besoin d'une éthique au-dessus qui me dise, nous, on pense que vous n'allez pas être drôle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'appelle ça du paternalisme. Des gens qui disent, vous savez, je crois que vous allez blesser. Vous avez aucune certitude que je vais blesser. Si je blesse, j'irai m'excuser d'avoir blessé. Mais laissez-nous au moins essayer, je pense. Et je crois qu'il y a une culture d'humour français, francophone, qui est là-dedans, depuis toujours, qui essaye d'aller gratter jusqu'où peut aller. Ceux qui seront blessés iront pas voir. Tout simplement. Ceux qui n'ont pas envie de te voir iront pas voir, tout simplement. Mais laissons, c'est la même chose, par rapport à une humoriste qui porte le voile. Au lieu de dire, ah madame, je crois pas qu'on va vous prendre parce que je pense que les gens n'iront pas vous voir.
Arrivé quand même.
Je sais que c'est arrivé. C'est pour ça que
j'ai envie de te dire,
c'est parce que je sais que c'est arrivé que je le dis. Donc c'est stupide de dire ça. C'est stupide de dire. Laisse aux gens le choix de voir s'ils vont apprécier ton humour en dessous du voile ou pas. La même chose pour la caricature du prophète. Laisse le choix aux gens de voir si c'est drôle ou pas.
Ouais, mais ça relate aussi de la mentalité du pays. Moi, ce qu'elle a raconté, ça me donne hyper envie d'aller m'installer là-bas.
Moi, je trouve
ça trop mignon, tu vois. C'est le monde des bisounours où tout le monde veut pas dire que c'est l'autre. C'est vrai.
Charlie Vanhoenacker, alors, humour de conviction, de responsabilité.
Oui, je suis plutôt dans la conviction, parce que je suis plutôt dans la conviction qu'il faut que la liberté d'expression est quelque chose qui s'entretient et dont il ne faut pas céder un millimètre. Et quand c'est fait avec tendresse, avec réflexion, l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction, elles peuvent se rejoindre. Moi, je pratique un humour de conviction, mais il y a quand même toujours la responsabilité qui est là. Et quand
un
texte est écrit,
les limites où vous seriez tenté de faire une vanne et vous dites non,
provocation pure ne m'intéresse pas. Par exemple, si je choisis de caricaturer Mahomet, je l'ai fait deux fois et je l'ai fait deux fois à des dates symboliques. C'était dire le jour des attentats, parce qu'on a voulu montrer que ce jour-là, il fallait tout de suite rire et tout de suite caricaturer Mahomet pour montrer qu'on a le courage et rendre hommage à Charlie. Je vais pas me lever un 3 mars et me dire tiens, si je caricaturais Mahomet pour me marrer. Non, il faut que ce soit symbolique.
Pour relancer les ventes de ton journal.
Ouais, voilà. Mais j'ai un espèce de filtre naturel. Il y a des choses. Le 11 septembre, ça ne me fait pas rire. J'ai du mal à rire de ça. Le Mohamed Merah et la tuerie des enfants juifs à Toulouse, je n'y arrive pas non plus. J'ai une sorte de filtre naturel. Je pense que la conviction, la vertu est dans le juste milieu des choses, c'est-à-dire la conviction, mais avec toujours un petit peu de responsabilité quand même, qui ne soit pas une censure. Mais, ouais.
Mais la tendresse, même quand on est dans la provocation, et là je te rejoins, la tendresse on la sent, les gens sentent que tu provoques, mais que tu provoques pas pour lui mettre une baffe ou lui faire mal. La tendresse on la sent quand je vois tes sketchs.
C'est qui aime bien, châtie bien aussi.
Quand je vois tes sketchs, par exemple, tu prends un accent. Pour certains sketchs, eh ben, le fait qu'il y a de la tendresse derrière, à aucun moment, par exemple, moi, je me souviens du sketch de Michel Leeb, où il prenait aussi un accent, mais moi, j'y voyais pas de tendresse quand j'étais gosse. J'y voyais pas du tout, tu vois. Donc, j'ai un blocage.
Michel Leeb, aujourd'hui, imitant, des accents africains ou un accent africain.
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Ah ouais, il imitait même un singe.
Ça serait plus acceptable.
Il les singeait.
Voilà.
Il cherchait pas à les imiter.
Et on sentait pas la tendresse.
C'est quoi la différence,
en fait,
alors?
La tendresse.
Quand vous imitez, par exemple, un accent ivoirien.
Déjà, je l'ai étudié, je l'ai écouté, j'ai essayé de le reproduire au mieux et je le fais toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Alors que
mais ça passe partout. Vous avez fait une tournée en Afrique subsaharienne,
au
Sénégal,
Cameroun,
Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon.
Sénégal, Cameroun, Gabon et Côte d'Ivoire. Ouais. Et quand j'ai joué au Cameroun, les Camerounais ont applaudi au moment où j'ai fait leur accent. Et un jour, mon père m'a dit mais je comprends pas, tu te moques d'eux, ils rigolent. Ouais. Je dis pas parce que je me moque pas. J'ai dit imagine demain, t'as un Asiatique qui vient te voir et qui te fait la nuance entre le Tunisien, l'Algérien et le Marocain. Tu serais pas étonné? Tu dirais pas mais comment il sait? Il me dit ouais c'est vrai. Je dis c'est la même chose.
C'est ça. Donc le leitmotiv des trois, finalement, c'est la tendresse. Si elle est là, elle protège le contenu. Si on se dit, ok, Charline ou Samia, elles font pas ça pour me faire mal, elles ont une raison, elles provoquent, mais on sent qu'elles, finalement, elles m'aiment bien.
En gros, c'est ça. Finalement, elles m'aiment bien. Aussi, hein, ouais.
Et est-ce que finalement, vous avez le sentiment, notamment vous, Samia Orhan-Sehmann, qui avait fait cette tournée en Afrique subsaharienne, que d'un pays à l'autre, il y a quand même parfois plus ou moins de capacité à l'empathie, à être emmené par vos sketchs?
Oui, la Côte d'Ivoire, par exemple, c'était fou, mais en même temps, on est arrivé le jour où ils ont gagné la Coupe d'Afrique.
Donc, facile.
Mais c'était magique. Les gens étaient fous, ils riaient très facilement. C'était très communicatif. Après, les Sénégalais, ils rigolent aussi, mais ils sont un peu plus susceptibles sur certaines choses. Il y a des choses qui ne passent pas. Si on parle d'eux ou qu'on donne une petite critique, ils ont un petit peu plus de mal. Ils sont un peu plus réfractaires. Après, le Cameroun, ils étaient très bons enfants.
Vous avez été
aussi
briefé là-dessus avant ou pas?
Non, en fait, comme on est resté plusieurs jours, on a eu la chance de partir avec un festival qui s'appelle Edof du Rire, organisé par Yass. C'est un Libanais né au Sénégal. Et bien, du coup, Yass nous a un petit peu raconté, mais on a eu l'occasion d'aller fréquenter les gens. On est allé à chaque fois pour une semaine et on a eu la chance de rencontrer des locaux, de bouger, de découvrir le pays, il nous a fait des espèces de visites, donc on a vraiment eu contact avec la population. Et donc forcément, quand on est là pour plusieurs jours, on a le temps de jauger un petit peu, de tester les vannes sur les personnes qu'on rencontre et d'adapter le discours.
Vous avez joué également au Canada, en Belgique. Oui. C'est la télévision belge d'ailleurs qui vous a plus ou moins repéré, non?
Oui, c'est la télévision belge qui m'a fait passer en premier. Ouais. La première fois que je suis passée à la télé, c'était à la télé belge.
Vous aviez deux Belges dans le studio.
Mais j'adore moi les Belges. Je suis amoureuse de Bruxelles. À chaque fois que je reviens de Bruxelles, je pleure, je veux pas partir. Parce que les Belges, ils sont gentils, ils sont un peu bisounours. Quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on lui sourit, et spontanément, il va sourire. Et moi, j'ai envie de le serrer dans mes bras et lui dire merci de me considérer comme un être humain. À Paris, si vous souriez à une vieille dame dans la rue, elle va ramasser son sac un peu plus près d'elle. Ouais. Non, les Belges, ils sont très très sympas, ils sont très bons enfants, ils aiment rire, ils sont très chaleureux. Un public de Belges, c'est le feu dans la salle, quoi. C'est juste magique.
Charline Van Hennecker, vous confirmez cette capacité à l'empathie?
Oui, je suis flattée de l'entendre. Je pense que les Québécois, je connais moins les Canadiens, mais les Québécois ont un peu ça aussi. Il y a un côté bon enfant, plus facile, plus aller vers l'autre.
Et puis l'autodérision
plus discuter
aussi.
Et de l'autodérision, c'est vrai. Et quelque chose que je retrouve aussi, moi, en Afrique, quand je vais beaucoup au Burkina Faso, je crois qu'il y a une grosse filiation avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a ces codes pour rigoler et dans les relations sociales, déminer les problèmes, etc., en rigolant les uns les autres.
À la question, peut-on rire de tout, il y a le dessinateur Frédéric Pajat qui est très critique sur Charlie Hebdo, qui répond: mais si le rire n'est pas compris et partagé, il est forcément mal interprété.
Je suis d'accord.
Ah bon?
Oui, je suis d'accord.
Oui, mais par exemple, le sketch de Charline, le dialogue là, entre la Vierge Marie et Mahomet, vous avez dit ça ne me fait pas rire. Est-ce que pour autant vous l'interprétez mal?
Je l'interprète pas mal, mais moi c'est des choses auxquelles
c'est pas la même chose.
Auxquelles je me serais pas attaquée. Mmh. Mais je comprends ce qu'il veut dire aussi. Si on comprend pas ce que dit l'autre personne, c'est normal que ça ne nous fasse pas rire.
Déjà le Coran ou la Bible sont mal interprétés eux-mêmes, alors qu'il y a pas de vanne dedans. Donc humour.
Smile Saïdi.
Non, moi je pense encore une fois. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que il y a l'émetteur et le récepteur dans tous les cas. Et donc à un moment donné, le récepteur, il y a plusieurs sortes de personnes là-dedans. Donc effectivement, ce sketch-là, il y en a qui vont l'interpréter. Je crois qu'il est clair. On sait ce qu'elle a voulu dire. Il y en a qui vont pas aimer pour des raisons encore une fois de croyance et respectables. Qui dit voilà, moi ça. Je suis imperméable.
Ou juste des questions de goût aussi.
Voilà, ou de goût, c'est je suis imperméable. Pour question de goût. Il y a des humoristes qui ne touchent pas à la religion, qui me font juste pas rire. Et donc, voilà, je suis imperméable. Puis, il y a ceux qui vont aimer, tout simplement. Mais je crois pas que ce soit un problème d'interprétation, je pense.
Bon, il y a eu quand même un âge d'or, hein, de l'humour. On parlait aujourd'hui de la grande prudence dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, avec les Monty Python, notamment. Faudra peut-être y revenir. Vous reviendrez nous en parler, Jane Weston-Vauclair, hein. Cette époque où on allait quand même très très loin. Merci, à vous tous. Samia Rosseman, votre spectacle, c'est Femmes de couleur, au point virgule, à Paris, 7 rue, ça ne s'invente pas, Sainte-Croix de la Bretonnerie. Dans le 4e arrondissement, tous les mardis soirs, Ismaël Saïd, vous êtes en spectacle, Djihad en tournée en ce moment entre la France et la Belgique. Et merci à vous, Charline Van Hennecker, tous les matins à 7h58 et à 17h.